Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Charles Danzig, merci bonsoir. Pour votre présence à la librairie Les Volcans, que vous venez de découvrir comme ça rapidement, on pourra passer un petit peu plus de temps tout à l'heure. Voilà, on va passer un moment ensemble pour découvrir ce Paris dans tous les siècles, publié aux éditions Grasset. Donc un roman, alors la quatrième de couverture parle de roman de la ville, c'est un roman qui effectivement est ancré totalement dans Paris, avec ce très beau titre, Paris dans tous ses siècles, qui renvoie et qui fait écho effectivement, et on peut le rencontrer au travers des différents destins qui se croisent dans le propos, des destins d'ailleurs de nature très très différente, on pourra y revenir. Une question, comment dire, compte tenu du nombre de personnages et de leur diversité, des angles que ça apporte sur le propos, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette forme particulière de roman presque choral, avec toutes ses entrées ?
Bah, d'une part, enfin, j'ai déjà publié plusieurs romans et je crois que chacun le montre. Moi, le roman narratif pur ne m'intéresse pas beaucoup, c'est-à-dire il ouvrit la portière, il entra chez la duchesse, il but un café et il fit un duel. Ça, c'est pas tout à fait mon genre de choses parce que je trouve que c'est une littérature réaliste qui, au fond, ne ressemble pas à la vie, qui est encore plus fictive que la fiction. Et donc ce... Enfin, il n'y a pas tellement de personnages. D'ailleurs, il y a 7 personnages principaux et à qui il arrive des choses, mais il arrive des choses dans un présent un peu particulier. Et c'est pour ça, vous l'aurez remarqué, que ça s'appelle Paris dans tous ses siècles. C'est que moi, j'ai une notion du temps assez confuse. Moi, je ne crois pas tout à fait à la notion de temps. Je crois à la durée. Je crois qu'on vieillit. Je crois que les choses changent et se modifient. Mais le temps, je ne sais pas bien ce que c'est. Et quand j'étais petit, moi, je croyais que... Si on soulevait le sol, là, comme ça, je verrais Louis XIV. Je croyais que le passé était dessous. À la fin, est-ce que j'ai tellement tort? Quand on va au rayon d'histoire des volcans, on prend des livres d'histoire et on se penche, et en dessous, le passé est sous nous. Dans mon roman, j'ai imaginé que la ville de Paris, on ne sait pas qui, a organisé des déroulés historiques, c'est-à-dire qu'à de certains moments qui sont désignés pour les Parisiens, le bitume est enroulé, il y a des rambardes d'un acier qui se lèvent et les Parisiens regardent le passé en dessous qui se passe. La première scène, c'est une scène de l'hôtel de Rambouillet, des fameuses précieuses, qui se passe à côté de la place des Victoires. Ils regardent ça. Mais je pense que c'est assez naturel, au fond. On voit beaucoup la matérialité des choses, mais quand on vit dans quelques villes que ce soit, Paris plus, parce qu'il y a plus d'habitants, plus d'histoire littéraire et artistique, mais quand on vit dans Paris ou dans une grande ville, on vit dans tous les temps. On traverse la rue de la Rochefoucauld et puis c'est le XVIIe siècle. On voit une plaque ici a vécu Marcel Proust et c'est le début du XXe. Et puis on traverse le Pont Neuf et c'est Henri IV. Et puis c'est sans arrêt comme ça. En réalité, personne ne vit dans le présent. On vit dans le présent très très rarement.
En archéologie, on parle de stratigraphie.
Voilà. Et donc les personnages vivent dans ce présent un peu bizarre où il y a des morceaux de passé qui arrivent et à chacun il arrive des aventures. Il y a un écrivain un peu grincheux comme il peut en exister pas mal en ce moment qui va à la radio en disant que tout est foutu et que la France est morte. Il y a son fils.
Oui, faisons la galerie de portraits. Voilà, entrons directement dans la galerie de portraits si vous le voulez bien.
Ça, il a un fils qui se teint les cheveux de différentes couleurs et qui se peint les ongles et ça lui plaît pas, aussi, qui est étudiant aux Beaux-Arts. Il a un personnage que j'aime beaucoup, c'est une galeriste dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés qui est une femme de 50 ans et qui arrive à un moment où elle est très très déstabilisée parce que elle se dit c'est mon dernier amour, tout ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait, enfin, et qui utilise les services d'un gigolo très arriviste. Il y a la meilleure amie du jeune garçon qui est une petite rousse qui est étudiante aussi, et à tous ces gens-là il arrive des choses, et une chose particulière c'est qu'à chacun de ces personnages est assigné un animal. que ce soit un animal qu'il possède ou un animal symbolique. Donc, par exemple, l'écrivain a un teckel, et au début du chapitre, où il est principalement question de l'écrivain, le teckel prend la parole et parle, et parfois, pour contredire ce que va dire l'écrivain en suivant, de même, la galeriste a un chat qu'elle a appelé Xanax, parce qu'il est très nerveux, il déchire tout, donc par antiphrase, elle l'a appelé Xanax. Enfin, il y a un renard, et tous ces gens parlent, et parce que c'est aussi un roman sur la façon dont nous traitons les animaux, et plus généralement, c'est un roman sur le jugement, parce que Paris est la capitale, non seulement de la France, mais probablement internationale, du jugement, où tout le monde se juge en permanence, tout le monde a des avis sur tout, y compris mes personnages. Et les animaux, dans ce livre, jugent aussi les humains.
C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi toutes les clés d'entrée, on a effectivement donc des personnages auxquels il arrive un certain nombre de péripéties, aventures, moments, mais ils ont chacun effectivement un peu leur animal totem. Mais à ces animaux totems attachés à une personne et qui augmentent via l'animal leur manière de voir le monde, on a en plus bien d'autres animaux qui viennent et qui, à hauteur d'animaux et à hauteur de là où ils peuvent être, et ça va du rat à la puce, non, de la puce au rat à l'éléphant, on voit aussi Paris.
Oui, tout à fait. Il y a un éléphant qui s'échappe du zoo de Vincennes et qui vient mettre la pétaudière dans Paris. Et c'est un écho, évidemment. L'éléphant est un animal très parisien. On l'a un peu oublié, mais à part ceux qui se souviennent des Misérables. Mais comme vous savez...
Les Misérables, on passe à Gavroche tout
de suite. Voilà, le Gavroche vit dans un éléphant de carton, place de la Bastille, qui était la maquette d'une statue gigantesque que Napoléon avait prévue. Mais cet éléphant s'échappe et ça veut dire des choses aussi. C'est-à-dire qu'on voit les Parisiens prendre des selfies avec l'éléphant, se faire écraser, une manifestation d'écologistes qui dit « touchez pas à l'éléphant », des évangéliques qui arrivent en disant « Dieu a voulu l'éléphant ». Enfin, il y a aussi une manière de s'attirer comme ça sur les comportements contemporains. Puis il y a parfois des animaux qui sont tout seuls. Il y a un chapitre qui est un colloque mondial des insectes dans un arbre du jardin du Luxembourg. Et à chaque étage de branche, différents types d'insectes donnent leur avis sur l'humanité. Et comme ils se jugent entre eux aussi, les animaux, parce qu'en fait, ils sont ni mieux ni moins bien que nous. Ils sont exactement comme nous. Ils se jugent. Et par exemple, il y a une scène qui m'a assez amusé à faire, où le teckel de l'écrivain marche... trottine dans Paris avec la laisse dans sa bouche, comme les chiens font parfois, et il est croisé par une fourmi qui porte sur ses pattes une mie de pain trois fois plus lourde qu'elle et qui lui dit aliéné. Et donc les animaux se jugent entre eux aussi. D'ailleurs, je viens de dire, la bouche, c'est aussi, si je peux le préciser, d'une certaine manière, un roman sur le langage, parce que à chaque fois que je parle des animaux, le langage qui est appliqué à ces animaux n'est pas un langage animalier. C'est-à-dire que j'ai trouvé un peu étrange que pourquoi... Enfin si, on sait très bien pourquoi, quand le vocabulaire s'est fondé, quand les gens ont imaginé le vocabulaire français, mais de toutes les langues, que les êtres humains avaient droit à une bouche, mais les animaux avaient droit à une gueule. Et j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc j'ai voulu faire une espèce d'égalité complète comme ça. Et mes animaux n'ont pas une gueule, mais une bouche. N'ont pas des pattes, mais des jambes. Ça existe déjà pour les chevaux, d'ailleurs. Enfin, et je leur applique le même lexique, parce que je crois qu'ils sont plus proches de nous qu'on ne le pense. Je fais dire à un de mes personnages que je crois qu'il y a dû avoir une guerre il y a très très longtemps, il y a 30 millions d'années, et les animaux ont perdu. Et depuis... ils boudent et ils ont décidé d'utiliser un langage rudimentaire qui n'est pas le langage des vainqueurs, mais le langage des vaincus. C'est une théorie.
Mais le niveau de langue des animaux dans le livre est assez élevé, effectivement. Il est même plus que parfois...
Je connais des teckels plus intelligents que bien des écrivains.
Oui, voilà. Voilà. Donc, alors, certains personnages sont définis d'une manière très, très particulière et très belle. Gabriel a une beauté lente. Une beauté lente.
Ça existe, non?
Oui, voilà.
Une femme avec une beauté lente. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de beauté lente? L'actrice grecque Irène Papas avait une beauté lente. Mélina Mercouri, encore une grecque, avait une beauté lente. C'est pas, il y a des beautés explosives et pétillantes comme ça, je sais pas quoi. La chanteuse Rihanna a une beauté lente, je trouve. Elle est très belle, elle a une beauté lente, une beauté qui met un certain temps à surgir et à se voir. Et c'est pas les beautés pétillantes de Leslie Caron ou Marilyn Monroe qui est là, à poup, tout de suite, comme une bulle.
Et au détour effectivement du livre, alors certains passages font écho à des classiques de la littérature. On parlait de cet éléphant évidemment qui renvoie à ce passage de Victor Hugo. Et à un moment tout au début du livre, il y a une description en fait des traiteurs. Et on peut pas ne pas penser au ventre de Paris. Enfin, il y a deux pages dédiées aux vitrines de traiteurs, très très impressionnantes, où on parle des forteresses de macédoine de légumes, bornées de remparts ondulants de mayonnaise. Enfin, vous êtes fait plaisir avec cette description précise. Ça veut dire quelque chose.
Ça c'est vraiment pour moi. Moi, c'était un passage d'écriture égoïste, car moi je suis fasciné par les traiteurs. J'aime bien les poissonniers aussi. Parce que les poissonneries, ça ressemble assez à des joailleries, enfin, voir des écrevisses rouges comme ça, c'est comme des boucles d'oreilles, enfin, c'est assez beau, mais c'est moins ouvragé que les vitrines de traiteurs. C'est pour moi, c'est sublime. Enfin, voir une pyramide de macédoine de légumes, c'est extrêmement beau, et donc ça donne une impression d'opulence, ça donne une ville. Une ville sans traiteur est une ville malheureuse, je vous assure. Une ville sans fleuriste aussi. Mais la France a pas mal de fleuristes. Il y a peu de pays au monde qui ont
un fleuriste.
Oui, parce que les traiteurs, il y a un élément d'esthétique qui sert quand même à la nourriture et aux pratiques. Alors que les fleurs, c'est purement pour la beauté de la chose, si je puis dire. Et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de villes dans le monde où il y a autant de fleuristes que Paris.
Et avec sa habitude, depuis maintenant 5-6 ans, des façades de beaucoup de restaurants et de brasseries à Paris qui se couvrent de fleurs.
Ça,
c'est autre chose.
C'est des fausses fleurs et c'est une des fatalités qui arrive à Paris avec les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment une horreur. C'est-à-dire qu'on subventionne des... Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir les touristes à Paris qui prennent ça en photo et qui croient que c'était comme ça en 1900, alors que c'est des fleurs en plastoc assez moches qui tombent comme ça par-dessus les vitrines.
Ça a infesté tous les quartiers, Montmartre
compris. C'est affreux. C'est affreux. On dirait des vieilles chevelures de hippies qui sont retombées des années 70 comme ça sur les vitrines. Non, c'est pas bien.
Et qui en date pour certains, parce que ça se décolore en plus. Enfin,
c'est pas
terrible. Autre chose aussi, donc en commençant le livre, j'ai toujours avec moi un petit plan de Paris. Il faut le lire avec un plan de Paris quand même, votre livre.
Pas forcément, parce que mon Paris, si vous voulez, mais enfin, mon Paris est aussi un Paris très imaginé, très rêvé, tout à fait exact, mais on n'a pas besoin de... C'est pas un Paris balzacien dans le sens d'une précision commerciale, industrielle et capitaliste des choses. C'est un pays, c'est des quartiers d'imagination. Et j'ai essayé de montrer tous les endroits de Paris, c'est-à-dire, je vous parlais de Saint-Germain-des-Prés, mais il y a aussi le 19e, il y a aussi des quartiers populaires, et j'ai voulu montrer ça, et en particulier j'ai fait ça aussi pour montrer que Paris est une ville vivace et énergique, parce qu'on entend dire depuis des années que Paris est un musée, que c'est ennuyeux, que si, que ça, ce que je ne crois pas vrai. Mais je voulais un peu m'opposer à cette idée reçue de Paris, une ville, un conflit de ville en quelque sorte.
Oui, et avec en plus, j'ai très souvent noté à certaines pages, voilà, définition de Paris ou définition des Parisiens. Et à partir de la 5e ou 6e fois, je me perçois que toutes les deux pages, vous avez une définition de Paris, qui est souvent très très amusante en plus. Voilà. Et on y reviendra pour certains exemples. Mais effectivement, pour reprendre cette question du plan, qui nous offre aussi parfois des... Comment dire, des...
Pardon, je peux vous interrompre ? C'est, oui, vous avez, y a une question importante en matière de plan, en effet, c'est que... je crois qu'il y a une singularité de Paris, c'est que c'est une ville ronde, à peu près.
J'y venais.
Vous y venez. C'est une ville ronde et en forme de cerveau, mais en tout cas ronde, et Paris est une forme ronde qui contredit la forme de la France. Moi, je crois que la psychologie des peuples est probablement très influencée par la conformation géographique des pays et que les Italiens ne sont pas tout à fait les mêmes que nous, pour bien des raisons, mais aussi parce que leur pays est étiré en longueur comme ça, de manière très très longue. Et la France est à peu près le seul pays, on dit hexagonal, mais enfin qui est plutôt carré du monde. On pourrait dire l'Espagne, mais l'Espagne est privée d'un bout de l'Espagne depuis très longtemps, du Portugal, donc c'est pas un vrai carré. Et je pense que le fait que la France soit carrée crée une angoisse spécifique aux Français. Je crois que nous sommes un peuple d'angoissés. Je crois que les Français sont angoissés et que la racine carrée de l'angoisse se passe à Paris. Et que cette angoisse vient du fait que notre pays est carré. Parce que le carré, ça se plie en deux, ça reste un carré, mais plus petit. Et ça se replie en deux et ça reste un carré. Et ça se replie en deux et ça reste un carré. Et ça peut disparaître. Le carré peut disparaître beaucoup plus facilement qu'un pays brouillon comme l'Italie. Et d'ailleurs, il a en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé en 40. On l'a plié en deux, il y a eu la zone occupée, le carré, et la France a à peu près disparu. Donc je crois qu'on en a éprouvé, même dans notre histoire, les conséquences psychologiques de ce carré. Et Paris est très utile parce que Paris est rond et contredit ce carré. Et d'ailleurs, tous les chefs de la France, si on peut employer ce mot chef dont j'ai horreur, ont détesté Paris. Louis XIV détestait Paris, on sait qu'il a fait son Versailles par détestation de Paris. Les rois valois habitaient en Touraine ou dans le centre de la France et n'aimaient pas Paris. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a voulu déplacer la présidence de la République au fort de Vincennes. Enfin, il déteste Paris, à juste titre d'ailleurs, parce que Paris, c'est ce rond qui contredit le carré. On ne peut pas marcher au pas, parce qu'il y a une tendance à faire marcher les Français au pas. On a un peu le parc de Versailles et les jardins de Versailles, c'est le prototype de ça, avec ces pauvres petits buis qui vont une, deux, une, deux. Et d'ailleurs, la langue française est assez rigoriste pour ça aussi. C'est une langue merveilleuse, mais c'est une langue très, très rigoriste. Et enfin, quand on parle le français, je fais dire à un de mes personnages qui est brésilien qu'on est plus intelligent quand on parle français, c'est un Brésilien qui le dit, mais il y a quand même ce côté de marche au pas. Et nous sommes un pays, pour ça, très. Je trouve qu'il y a ce côté d'obéissance des Français qui multiplie leur angoisse. On n'a pas été tellement habitué à la liberté.
Et un Paris qui, vous le comparez à un cerveau, le cerneau de noix n'est pas très loin, mais enfin la silhouette est celle-ci, un œil aussi, enfin voilà, et la scène très tranquille qui traverse cette ville en plus aussi.
C'est un cerveau parce que ça, c'est le cas particulier de Paris. C'est que moi, je suis né dans le sud-ouest, je suis venu à Paris. Il n'y a pas un écrivain français, je parle dans la ville de Blaise Pascal, qui n'ait pas éprouvé le besoin de venir à Paris parce que, pour telle raison injuste ou pas, d'ailleurs en Angleterre, ça n'est pas comme ça, en Italie, ça n'est pas comme ça, mais à Paris, on ne peut, à ce jour encore, devenir réellement écrivain que si on vient à Paris parce que Paris est une capitale intellectuelle où les imaginations se regroupent et ça crée des étincelles. Et ça a toujours été comme ça. Donc par une espèce de mimétisme, peut-être, nous allons à Paris, mais c'est aussi nécessaire pour des raisons pratiques, parce que les galeristes sont là, les principales maisons d'édition sont là, etc., etc. Et ça fait cette ville peut-être insupportable, mais qui sauve certaines personnes.
Voilà, et qu'on va retrouver simplement, quand on prend les sièges de maisons d'édition, dans deux arrondissements. Et si on reprend...
Oh, ça a un peu changé.
Oui,
hein.
ça c'est clair.
Depuis que les...
Et le coût du loyer fait que...
Non, c'est pas le coût des loyers, ce sont les grands groupes qui ont acheté les maisons d'édition, qui ont décidé par un calcul que je soupçonne par moments un peu malveillant d'écarter des maisons d'édition du centre de Paris, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait encore à Saint-Germain-des-Prés les principales maisons de Paris. Et puis tout d'un coup, les groupes ont exilé ça. Le Seuil, maintenant, est tout à fait au nord de Paris, à Rosa Park. C'est un endroit épouvantable avec un plateau où les éditeurs sont sur un plateau comme dans une salle de rédaction. Et je pense que c'est plutôt mieux que d'avoir des petits emmerdeurs d'éditeurs et d'écrivains qui persiflent, qui ricanent, qui ne sont pas contents et qui sont dans les mêmes cafés.
Qui déjeunent ensemble.
Voilà. Et donc, il vaut mieux éloigner les... C'est d'ailleurs une chose que je fais dire à mon étudiant, n'oublions pas que c'est un roman, dans Paris, c'est une chose qui a beaucoup changé, c'est-à-dire que Paris s'est embourgeoisé dans un sens où aussi on a écarté beaucoup de choses qui pouvaient être gênantes. Par exemple, les étudiants maintenant sont en dehors de Paris. HEC, c'est une école en dehors de Paris. L'ENA, et on ne sait plus où, sur la Lune. Beaucoup de facs sont séparés de Paris. Et donc, ça fait des campus loin. Ça fait beaucoup moins de gars. Moi, j'aime bien les étudiants parce qu'ils sont là pour un peu ronchonner et pester. Et on les a un peu éloignés. Mais il n'y a pas que ça. Les sièges des journaux sont partis. Ils ne sont plus dans Paris. Donc, on a... quand on parle d'embourgeoisement, c'est un embourgeoisement, mais aussi une espèce d'appauvrissement et de phénomène de ressemblance assez frappant. On ne voit pas... qu'est-ce qu'on fait des handicapés dans Paris ? Je me le demande depuis des années. On n'en voit plus. On n'en voit plus. C'est-à-dire qu'il y a l'Institut des jeunes aveugles à côté de Montparnasse où on voit quelques aveugles et après rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hygiénification de la ville qui ne doit pas être propre à Paris. Mais enfin, où sont les éclopés, où sont... Et c'est pour ça que dans mon livre, j'imagine une manifestation d'éclopés qui tournent en rond dans des chaises roulantes en hurlant autour de la place de la Concorde parce qu'ils protestent et ils ont raison. C'est-à-dire que ce n'est pas beau, ce n'est pas propre. Donc, plus de borgnes, plus d'aveugles, plus d'éclopés, plus d'unijambistes. C'est très frappant, très très frappant. Et là, par-dessus le marché, les clochards, il y en a un peu plus, mais à cause de ces maudits Jeux Olympiques, ils sont envoyés à Clermont-Ferrand peut-être.
Ils sont invisibilisés, on ne les a pas encore reçus. Enfin, bon, voilà. Pour revenir effectivement...
Vous aurez remarqué que les Jeux Olympiques m'agacent en ce moment, mais c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à sortir de chez moi, parce qu'il y a des travaux partout. Et que par-dessus le marché, vous savez que, si vous permettez, je fais une parenthèse, ces Jeux Olympiques sont une chose, une entreprise de propagande et de bourrage de crâne, comme on n'a pas vu depuis la guerre d'Irak, disons, la guerre du Golfe. C'est quand même fascinant de voir que les premières choses à quoi se sont attaquées c'est les Jeux Olympiques, outre de se passer dans Paris pour emmerder les pauvres Parisiens que nous sommes, où on va avoir... Moi, dans mon quartier, je vais devoir avoir un QR code pour rentrer chez moi. C'est-à-dire les Ausweis pour des Ausweis pour rentrer chez soi. Mais les premières choses à quoi se sont attaquées ces organisations sportives et lucratives, ce sont les choses de l'esprit. On a voulu, comme vous avez tous su probablement, fermer les boîtes à livres et les enlever des boîtes de bouquinistes de Paris. Depuis 3 mois, on vire les étudiants des logements étudiants des Crous dans Paris pour loger, je sais pas quoi, des gens du Comité international olympique, des accompagnants de sportifs. On ferme les boîtes à livres. On veut, ça n'a pas pu se faire, fermer les boîtes à livres et on vire les étudiants de Paris, c'est-à-dire les choses de l'intelligence et de l'esprit dehors. Tout ça pour nous faire croire que. En plus, on a créé des espèces d'olympiades culturelles, comme s'il y avait le moindre rapport entre une compétition sportive et écrire des livres ou pas un tableau, enfin. Mais c'est plus grave que ça n'en a l'air, évidemment, je pense, parce que vraiment, là, dans l'ordre symbolique, on attaque les choses de l'esprit, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres étudiants qui payent 150 euros une chambre pour travailler, pour apprendre des choses, mais on va y mettre des sportifs du Comité international olympique qui distribuent des flots d'argent à des politiciens. Passons.
Oui. Vous êtes relativement clément avec la maire de Paris,
oui.
Qui a dit déjà plutôt.
Moi, je glace les dîners à Paris quand les gens gueulent contre Hidalgo en disant j'ai voté pour elle. Et en général, il y a un froid. Parce que, il faut dire, la fonction de maire de Paris appelle ça. C'est-à-dire, aucun maire de Paris n'a jamais été tranquille. Quand c'était Tibéri, tout le monde aboyait contre Tibéri. Quand c'était Chirac, tout le monde aboyait contre Chirac. Un peu moins parce qu'il rinçait beaucoup. Mais bon. Et Hidalgo, c'est devenu. C'est devenu comme quand on. Comme si on balançait un bout de viande au-dessus du grillage d'un chenil. Et tout le monde. Hidalgo, alors il fait mauvais, c'est Hidalgo, il y a de la neige qui tombe, c'est Hidalgo, ça sent mauvais, c'est Hidalgo, et ça m'amuse assez, parce que elle a sûrement des défauts, mais ça fait partie du côté, mauvais côté des Parisiens qui sont assez... assez râleur. Il y avait une publicité il y a quelques années du Parisien, le journal qui disait le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal qu'en vrai, et parce qu'on voyait des Parisiens se bousculer. J'avais un ami vénézuélien qui me disait à Paris, on est extrêmement poli, les gens se bousculent, ils disent tous pardon, pardon, pardon.
Oui. Et là, je reprends un passage où, à un moment donné, donc, l'un des protagonistes, donc, qui est auteur, est reçu par la maire de Paris. Paris est devenu un pastiche. Un huissier le conduisit donc dans le bureau, au bureau de la maire, immense à proportion de son impuissance. Bureau immense à proportion de son impuissance, pense à Victor en inventoriant de l'œil les hautes fenêtres, le gros lustre de cristal, le bureau contemporain soigneusement sobre, les canapés et les fauteuils blancs, la table basse portant un copieux bouquet de fleurs, l'immense tableau en barbouillage de confiture, ne pas répéter à Gabriel, Gabriel est galeriste.
Oui, enfin d'ailleurs j'ai fait un peu un mélange parce que ma mère de Paris à moi, elle est, c'est une Algérienne immigrée dont le père a réussi, etc. Donc en fait j'ai fait un hybride monstrueux entre la mère de Paris actuelle et sa monstrueuse concurrente.
Oui, c'est, on a bien compris ça, effectivement. Vous arrivez à une sorte de voie moyenne, voilà. Qui n'est pas moyenne du tout, d'ailleurs.
Nous avons, grâce à elle, d'ailleurs, mais je ne parle pas de mon roman, là, je parle d'autre chose, il suffira de le lire, quand même la première ministre de la culture populiste de l'histoire de France. Elle a déclaré dans Paris Match, il y a 15 jours, que le mot musée, ça faisait vieux et c'était pas intéressant, les musées. Donc, elle aime pas les musées. Elle a pris un décret autorisant la publicité pour le livre à la télévision, chose que tous les éditeurs de France depuis 50 ans essaient d'empêcher, et parce qu'on sait très bien que ça va favoriser les mauvais livres qui se vendent à 400 000 exemplaires et que ça va écraser le marché. Et ensuite, comme vous avez dû le voir aussi, elle était en déplacement en province il n'y a pas très très longtemps et on lui a montré un exemple d'archéologie préventive. Et elle a dit, bah, dépêchez-vous parce que moi, j'aime pas les trous pour faire des trous. Donc, tout ça, sous des prétextes les plus... Quand je dis populiste, c'est vrai, parce que c'est des prétextes démagogiques. Elle prétend faire tout ça pour aider les pauvres dans les banlieues, pour accéder à la culture. Elle, qui a du dentifrice Louboutin, je pense.
L'auteur, donc un des protagonistes, est auteur. Il se pose beaucoup de questions. Il est désespéré à un moment donné par la littérature. La littérature n'intéresse plus personne. Mon erreur était de croire que la façon de dire importait à mon corps défendant. Je suis soumis à la dictature de la bien-pensance.
Oui, ça c'est lui qui le dit parce qu'il est ronchon, mais j'ai voulu montrer par ce type d'écrivain quelque chose qui existe assez. Cet écrivain-là est un écrivain qui a d'ailleurs du talent, qui est un vieux schnock qui râle, mais qui a du talent, et qui fait partie d'un type d'écrivain qui existe beaucoup en France, qui sont les écrivains de l'intime, qui ont écrit sur eux et qui, à partir d'un certain âge, ne savent plus quoi écrire et passent à la politique. Le plus grand, l'apothéose de ça, était André Gide, qui a passé sa jeunesse à étudier très bien son intimité, etc., etc. Et puis, ces gens-là, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge où ils ont écrit, ils n'ont plus rien à dire, donc très volontiers, ils passent à la politique et ça peut être un risque. Ça peut être un risque. Et vous regardez, vous aurez des tas d'exemples de ça. Moi, j'ai très bien connu un très bon écrivain, d'ailleurs, qui était François Veillargans. François Veillargans, au bout d'un moment, savait plus quoi écrire parce qu'il n'écrivait que sur lui. Et puis, heureusement, lui n'est pas passé à la politique, mais il est mort jeune, le malheureux. Mais ça arrive assez souvent, ce mouvement-là, hein, qui peut être assez facile parce qu'on vous demande, à partir du moment où vous êtes un peu connu ou votre signature est un peu connue, on vous demande volontiers votre avis sur des tas de choses et c'est parfois risqué de les donner. C'est pour ça que j'aurais pas dû vous parler de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Comme quoi, on est toujours meilleur à donner des conseils qu'à les appliquer.
Tout à l'heure, on a évoqué effectivement Gabrielle, donc une femme d'une cinquantaine d'années qui installe sa galerie, qui se pose des questions où installer sa galerie, quel est le meilleur endroit pour installer sa galerie, et puis elle termine quand même à Saint-Germain-des-Prés, qui est quand même là où ça se passe, où se trouve le cœur de Paris. En lisant le livre, on a l'impression qu'on est dans une sorte de constante définition de ce qui est exactement la cartographie. On revient à la carte de Paris. Qu'est-ce que c'est que le vrai Paris? Et si on a un doute, on s'aperçoit. Je termine juste avant de vous donner la parole. Et si on a un doute ou un questionnement, on s'aperçoit que un petit peu comme un, comment dire, quand on fait une question qu'on posait à un fameux sculpteur qui sculptait très bien des chevaux dans l'histoire originale, et c'était comment tu sculptes aussi bien un cheval? C'est bien, je prends une pierre brute et j'enlève tout ce qui n'est pas un cheval. Voilà, et j'arrive à une belle sculpture. La question, c'est, on part de Paris et on enlève tout ce qui n'est pas Paris. Et si on avait un doute, on est page 224, Victor dit, rien de pire que le 15e, on parle du 15e arrondissement, rien de pire que le 15e, dirait ta mère, on devrait le détacher de Paris, il dériverait jusqu'à sa destination naturelle, La Roche-sur-Yon. C'est très drôle.
Oui, très, ça, très c'est amusant. Le personnage qui le dit, je ne peux pas dire. Mais voilà. Il y a effectivement beaucoup de... On ne peut pas dire que dans Paris, le 15e arrondissement soit l'arrondissement le plus... À part, même par ceux qui y habitent, soit le plus vénéré. Mais parce qu'il y a aussi... C'est amusant parce que Paris, peut-être vu de l'extérieur, est un tout, mais Paris... C'est aussi une accumulation de villages et de quartiers et de les histoires de rive droite et de rive gauche. Ça existe moins que du temps de Marcel Proust contre André Gide, d'ailleurs, parce qu'il y avait une partie rive droite, rive gauche entre deux. Mais ça existe encore et on fait semblant de se moquer d'un côté à l'autre de la rive. Moi, je prétends que rive gauche, on a mis des où il y a beaucoup moins de monde et où c'est beaucoup moins peuplé. On a mis des feux rouges pour faire croire aux gens de la rive droite qu'il y avait des voitures et des gens parce que sinon ils seraient trop affolés de voir qu'on est trop confortable sur la rive gauche.
Quand on est, il y a une histoire d'enterrement. Quand on est rive gauche, c'est comme si on allait à un enterrement et rive droite, c'est là on est en train de le préparer l'enterrement.
Oui, c'est ça. Mais et donc il y a vraiment des oui, il y a vraiment des vies de quartier, de village, enfin, et c'est mouvant, comme disait Baudelaire, la forme de mon cœur, etc. La ville de le Paris a plusieurs cœurs qui sont mouvants, et alors les gens s'imaginent en réalité Saint-Germain-des-Prés où se passe une partie de mon histoire est très très démodée. Et en dehors de Paris, je ne sais pas si on sait bien que maintenant, le quartier le plus snob, le plus hype, le plus machin, c'est Bozzari, c'est-à-dire à côté des buts de Chaumont où habitent tous les gens comme il faut, ou d'ailleurs des amis à moi, mais enfin, c'est là où vous trouvez Virginie Despentes, Édouard Louis, machin, tout ça. Tout ça sont là parce que... je ne sais pas pourquoi, mais enfin, probablement parce que... c'était dans un quartier d'ouvriers, donc habiter chez les ouvriers, ça donne conscience d'être un peu moins bourgeois.
Parmi les nombreuses pages pour lesquelles on note ici définition de Paris ou ici définition des Parisiens, avec des formules qui sont souvent mises entre guillemets pour les isoler, j'en prends quelques-unes comme ça qui viennent, on pourra les commenter. Hein. Des gens qui ne vivent pas à Paris sont de Paris, ils y pensent. Les Parisiens sont si méchants que la politesse les étonne. Ça, c'est pas mal. Et aussi, pour le plan de Paris, si tu regardes bien, ce n'est pas un bateau qui symbolise Paris, mais un scorpion.
Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est le défaut des Parisiens, souvent, c'est qu'ils aiment être méchants. Il est assez frappant de... Dès qu'on sort de Paris, de trouver que les Français sont plutôt gentils, accueillants, enfin tout ce qu'on veut. Mais à Paris, on est plutôt rêche. Mais je me demande si ça ne participe pas. C'est très difficile de savoir ce qu'on a été avant, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Est-ce que les Parisiens ont toujours été comme ça? Est-ce que cette amertume était là? Est-ce que c'est notre histoire récente qui fait que qu'on est devenu comme ça? Il ne faut pas... Oubliez aussi que, enfin, dans l'ensemble, d'ailleurs, la France est un pays souffrant. Il y avait une chanson de Souchon dont la rime était un peu désolante, mais pas tout à fait fausse, il n'y a pas très longtemps, qui faisait rimer France avec souffrance. Et Paris, je ne veux pas dire que c'est Metz ou les Ardennes, mais enfin, Paris n'a cessé d'être occupé, envahi, bousculé. C'est pas une ville tranquille, c'est une ville qui a souffert depuis 1420 et la première occupation de Paris, enfin, si on accepte les Romains. Et d'ailleurs, je le fais dire à un de mes personnages, on pense, ou moi-même je pensais d'ailleurs qu'il n'y avait eu d'exode qu'en 40, et en réalité, il y a eu des exodes très, très, très fréquents à Paris. En octobre 18, quand les Allemands ont avancé et qu'ils étaient au bord de gagner la guerre, 1 million de Parisiens sont partis. Ouais. Donc on pense à 40, mais en 18 c'était ça, en 70 c'était ça, en 48 ça a été ça. Grâce à Napoléon, nous avons perdu à Waterloo et que les troupes d'occupation sont venues, des Français, des Parisiens sont partis. C'est une ville un peu sanglante pour ça.
Et pour alors...
Je ne veux pas dire d'ailleurs, pardon, je laissais entendre tout à l'heure que Paris était rond et contestataire, mais ça ne veut pas toujours dire, il y a une légende de Paris, ville de gauche, révolutionnaire, etc. Ça a existé, mais Paris est tellement contre tout que Paris a aussi été une ville d'extrême droite. Au moment de la Saint-Barthélemy, et des guerres de religion. Paris était ligarde et suivait le duc de Guise et n'était pas du tout modéré. Donc Paris révolutionnaire, si on veut.
Avec une différence aussi entre, on dirait, Paris qui est un personnage avec cette tocade au fil et les Parisiens eux-mêmes. Combien de Parisiens ne méritent pas Paris ? Combien de Parisiens ne méritent pas Paris ? Une population est rarement à la hauteur de sa capitale, car celle-ci a été créée malgré elle. Une ville est faite par ses habitants, une capitale est faite en les abusant. Une ville est faite par ses habitants, une capitale est faite en les abusant. Leurs intérêts sont adverses, les habitants veulent des bâtiments, la capitale veut des monuments.
Oui, je crois. Je crois. Parce que c'est la question de l'imagination.
Et oui, voilà. Les habitants veulent de l'argent, la capitale veut de la poésie.
Comment ?
Les habitants veulent de l'argent, la capitale veut de la poésie.
Oui, je crois. Je crois. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure solution, c'est de séparer la capitale juridique et la capitale effective d'un pays. Je trouve que Washington séparé de New York, c'est une pas si mauvaise idée. New York a d'ailleurs été la capitale des États-Unis pendant 2 ans, mais ça n'a pas duré. Et au fond, quand les Bourbons étaient à Versailles, c'était un peu Washington et c'était séparé. Et c'est peut-être pas si mal parce que ça sépare dans le reste du pays l'idée la plus pesante de la capitale, qui est le côté administratif, les chefs pesants, les ministères qui nous imposent, etc., etc. C'est mieux quand, moi je trouve mieux que ça soit séparé.
Ou en Turquie avec Ankara, Istanbul.
Exactement, exactement. Ou au Brésil avec
deux continents en plus.
Et je trouve que c'est une solution plus juste. Et en plus, ça fait que par-dessus le marché, Paris serait moins labouré par la police. Parce que maintenant, Paris est devenu... Ça, je le fais apparaître dans mon livre. Vraiment, il y a de la police partout à cause d'on ne sait quoi. Parce que Paris est une ville assez calme. Mais enfin, le moindre secrétaire d'État aux orteils sales déplace 15 voitures et 800 CRS. Et c'est assez étonnant. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé triomphalement il y a quelques semaines qu'on allait embaucher 8000 policiers de plus pour Paris, hors Jeux Olympiques, je me demande pourquoi. Et ça, c'est une chose moi, qui me frappe assez quand je reviens de l'étranger, de voir comme Paris est devenue une ville policière. C'est-à-dire, vous allez à Madrid, vous allez à Rome, vous allez à Berlin, vous allez à New York, il n'y a pas 15 flics harnachés comme Robocop, enfin, à tous les coins de rue, armés.
Comme à Londres, ils sont pas armés.
Enfin, les Parisiens ont l'impression d'être, je sais pas quoi, une ville de coup d'État sud-américaine et qu'un rassemblement de plus de 3 personnes risque d'être... Non, c'est vrai, c'est une ville très, très fliquée, si je peux le dire comme ça.
On revient à la définition et on viendra ensuite sur le propos des aventures des péripéties de certains personnages. On revient sur les Parisiens qui... Et si les Parisiens sont souvent désagréables, c'est pour repousser les admirations stupides. Soyez indulgents, Paris souffre souvent mais ne se plaint jamais. Sachez du reste que les Parisiens n'existent pas. Il y a les Lyonnais, il y a les Palois, il y a les Cadurciens, mais il n'y a pas de Parisiens en tant que conscience communautaire. Voilà.
Oui, je crois. Je crois. En fait, les Parisiens, c'est une invention de Sacha Guitry pour parler aux provinciaux. Moi, quand je vivais dans le Sud-Ouest, j'étais très, très amusé de voir Sacha Guitry qui disait « La Parisienne et les Parisiens », des trucs comme ça. Et en fait, ça n'existe pas parce que c'est un état d'esprit. D'ailleurs, Paris est assez un état d'esprit, voilà. Il me semble.
Oui. Donc, Gabriel fait le choix d'installer
Paris, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de mall, il n'y a pas d'hypermarché avec des piles de papier toilette de 15 mètres de haut. Au fond, c'est une petite ville. Et quand on nous dit on veut un grand Paris, moi, je trouve ça assez... Paris, c'est petit et c'est très bien.
On a commencé notre propos par une évocation effectivement du travail des traiteurs et de ces devantures à profusion qui sont magnifiques et que vous décrivez magnifiquement avec cette abondance. Mais en plus, vous présentez des plats qui sont complexes à réaliser. Donc derrière ça, il y a un artisanat
qui est
très, très important.
Très important. Enfin, ce passage-là en particulier du traiteur est destiné à montrer parce qu'il y a un personnage de gigolo franco-brésilien dans mon livre et qui n'a pas un sou et qui est obligé de tapiner un peu pour gagner de l'argent et qui rêve de devant cette nourriture à la fois bien organisée et si fastueuse. Oui, oui. Hein. Enfin, en même temps, l'artisanat... le vieil artisanat parisien, il existe de moins en moins. Vous savez, les ateliers, par exemple, je crois que le seul musée qui conserve un atelier de réparation, c'est Galliera, c'est le musée de la mode, parce que tous les autres sous-traitent. Il y a plus de... Moi, j'ai connu le dernier imprimeur à bras qui était à côté de la nouvelle bibliothèque nationale.
Il y avait un quartier de luthiers aussi dans le...
Des luthiers existent encore, mais quand même, tout ça est un peu tendance à être... remplacé par des immeubles bien plus grands que les volcans où on vend des sacs Vuitton et des choses comme ça. Bon.
Notre-Dame est évoquée une fois, l'incendie pas.
Vous avez non, à peine, parce que j'espère que je n'avais choqué personne, mais moi, Notre-Dame aurait été rasée, je n'aurais pas... Enfin, c'est la seule raison qui me fait regretter la chute de Louis XVI, c'est qu'il avait prévu de raser Notre-Dame. Il trouvait ça moche et vieillot, il l'aurait remplacé par un bâtiment néoclassique, un peu comme la Madeleine ou quelque chose comme ça. Et moi, je n'aime pas beaucoup Notre-Dame. En fait, Notre-Dame est une invention de Victor Hugo. Il n'y aurait pas eu le génie de Victor Hugo, on ne trouverait pas Notre-Dame aussi belle. Moi, je trouve que ça a une façade comme une guillotine, que ces espèces de pattes d'araignée qui sont là comme une religion qui s'impose sur une ville, enfin ça ne me... Enfin voilà, ce n'est pas très, mon avis n'est pas très important là-dessus, mais... Et d'ailleurs, il était frappant de voir que quand l'incendie a eu lieu, c'est là qu'on voit que depuis quelques années, le pays a changé, et la France aussi. Moi, j'ai vu des processions spontanées de pas de 1000 personnes, mais enfin de quelques dizaines de personnes, de gens à genoux qui chantaient des chants religieux parce qu'une flèche était tombée. Bon, c'est d'ailleurs une des meilleures opérations de l'Église de France depuis toujours, probablement, parce que l'Église a obtenu 1 milliard de dons du monde entier et a refusé de participer aux travaux puisque les bâtiments appartiennent à l'État suivant la loi de séparation de l'Église et de l'État et refuse de donner le moins d'argent pour les églises de province aussi qui se... Donc, si vous voulez 1 milliard, brûlez votre maison. Et...
Oui, c'est ça. C'est... Parce que les cathédrales donc, sont la propriété
donc,
de l'État.
Donc, enfin, pour tout ça, pour dire que Notre-Dame n'est pas pour moi un bâtiment symbolique de Paris, ni à qui on doit accorder une importance, enfin, pour moi en tout cas, si particulière. Ouais. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est dans un pays qui s'est quand même déchristianisé à un point considérable Là, je ne juge pas ni en bien ni en mal, mais c'est devenu des lieux de visite. Il y a Euro Disney, Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, et voilà. Ça n'a plus de valeur.
Voilà, un monument beaucoup plus présent dans le roman, le Louvre par exemple, qui concentre aussi des scènes importantes, qui a un lieu.
Oui, il y a d'ailleurs. Parce qu'une partie de l'esprit de Paris est dans le Louvre, d'ailleurs, et il y a une scène où je fais en sorte que, par un petit indice, où les personnages visitent le Louvre. Parce que le Louvre, il y a beaucoup de choses, les gens croient qu'on visite, mais il y a des soirées de drague, il y a un jour bien particulier dans le Louvre à tel endroit où les gens vont draguer, enfin, c'est très vivant le Louvre. Et je pense, moi, que les œuvres d'art ont une vie quand ça ferme ou quand les gens tournent le dos, les œuvres d'art ont une vie, et j'en donne le signe par le fait que quand deux de mes personnages sortent du Louvre, à un moment, l'un entend un bruit un peu fracassant comme ça, puis il se retourne, il dit « Ah non, la victoire de Samothrace n'a pas bougé, le pied est bien à sa place », et évidemment, j'ai fait exprès de mettre le pied à la mauvaise place pour que les gens qui savent se rendent compte. Et puis, c'est pas si aberrant, d'ailleurs, ce que je dis là, parce que toute personne qui aime ou la littérature ou le cinéma ou la peinture, etc., sait très bien que c'est Jean bouge, il bouge avec nous. Quand on va voir la femme à la perle de Vermeer, la femme à la perle de Vermeer, elle reste pas dans le cadre. Elle est avec nous, elle nous accompagne, on vit avec elle, on la connaît. Moi, je vis depuis des années, j'ai chez moi la femme au peignoir rose d'Edouard Manet, qui est au Metropolitan Museum à New York, vous savez, qui c'était Valentine Meurant, dans une très très grand peignoir rose, qui tient un monocle, qui a un perroquet à côté d'elle, elle vit avec moi depuis toujours, et ces gens sortent des tableaux, mais de même que les livres, c'est pareil. Moi, je connais très très bien Emma Bovary, elle est avec moi assez fréquemment, et elle n'est pas toujours dans le livre, et ça, c'est le phénomène de l'imagination.
Et c'est vrai que cette femme à la perle, depuis quelque temps, on la voit dans beaucoup de publicités, elle est convoquée très régulièrement dans des publicités depuis un an ou deux, assez régulièrement, oui, pour des campagnes.
Et on lui fait vendre quoi ? De la nourriture pour perroquet ?
Tout un tas de choses, voilà, des assurances, des voyages, des baguettes de pain, tout un tas de choses depuis quasiment deux ans, c'est assez étonnant.
Ah ouais ?
Ouais, tout à fait, ouais, c'est assez...
Mais elle est très belle, c'était un démonel de Manet qui l'a peinte plusieurs fois, elle s'appelait Valentine Meurant, et elle avait un visage un peu masculin comme ça, et elle avait un truc. Manet était un type extrêmement sympathique, je l'ai très bien connu. Il était très.
D'ailleurs, il nous l'a dit quand c'était la dernière fois qu'il est venu au Volcan, il nous en a parlé.
C'était un vrai bourgeois de Paris dans le bon sens du terme, c'est-à-dire spirituel, libéral. En plus, il avait du génie. Et en fait, il y a un petit clin d'œil dans ce tableau, c'est que Valentine Meurant était lesbienne. Il le savait très bien, ça l'amusait plutôt, et je pense que c'est pour ça que dans le tableau, il a fait exprès de lui donner un monocle, qui était un peu le signe distinctif secret des lesbiennes à ce moment-là. Rappelez-vous, la maîtresse de Colette, là, comme elle s'appelle, pas la Clermont-Tonnerre, mais la princesse Murat, qui ressemblait un peu à Donald Trump, et elle avait un monocle. C'était la minute point de vue image du monde.
Oui, c'est ça. Il faut raccrocher ensuite. Voilà, il faut raccrocher les...
Bah c'est pas rien, c'est intéressant, non ?
Ah mais bien sûr, dans ce livre, on apprend plein de choses. C'est vraiment un des meilleurs guides de Paris, en plus des plans qu'on nous donne pour nous y retrouver dans le métro. Il y a des personnages
qui
sont spéciaux.
Vous savez que Manet était tellement parisien que le jour où il est mort, son ami Monet a décidé de ne plus vivre à Paris. Et il s'est installé à... Je le dis là ?
Oui,
j'avais oublié.
Vous le dites dans le livre, tout à fait. Voilà, il déménage et il ne vient plus ensuite. Ah non, c'est magnifique. C'est ça. Ouais. Parmi ces personnages, il y a une personne beaucoup plus âgée que les autres qui va décéder ensuite et qui va être prise dans la chose épouvantable relative au don d'organe, c'est ça. Décrivez-nous cette situation un peu tutélaire.
C'est une grand-mère. Parce qu'il y a dans mon... Donc, on a parlé d'un de mes personnages qui s'appelle Gabrielle et qui est la galeriste, et elle fait partie d'une famille de femmes. Il y a des familles d'hommes, il y a des familles de femmes, il y a des familles de cousines, il y a des familles... Moi, j'ai une famille de cousines, il n'y a que des cousines dans ma famille, je ne sais pas pourquoi, et il y a des familles de femmes. Et ça existe, et elle fait partie d'une famille de femmes, c'est-à-dire des femmes qui aiment les hommes, mais qui s'en débarrassent, elles divorcent, elles vivent entre elles, les mères s'entendent bien avec les filles, qui s'entendent avec les petites filles et les arrière-petites filles, et les types passent, ils sont là, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Donc, elle fait partie de cette famille de femmes. Et la mère de Gabrielle est une... Elle fait partie d'un genre que j'aime beaucoup, qui est la vieille dame pète sec. Moi, j'aime bien la vieille dame pète sec, et qui a l'air un peu aboyeuse comme ça, et qui est en fait dotée d'un sens de l'humour très, très, très fort. Et elle est... c'est une très belle, très vieille dame qui doit avoir, je ne sais pas, dans mon livre, elle meurt à un moment donné, elle doit avoir plus de 90 ans. Et pour moi, elle a un peu un visage de... un peu de momie inca, vous voyez, je trouve ça très élégant. Un peu comme était, je ne sais pas si vous vous rappelez, Isaac Dinesen, Karen Blixen, l'écrivaine danoise qui a écrit La ferme africaine, qui avait beaucoup maigri, elle, parce qu'elle avait une syphilis, la pauvre, mais elle avait un peu ce profil avec des joues très creuses, un nez un peu de vautour, et ma vieille dame est un peu comme ça, très maigre, habillée par des couturiers, et elle est tellement vieille que la première scène, elle est dans un bistrot de Paris, et quand elle s'en va, un des garçons de café dit « Tu trouves pas qu'elle a vieilli, la centenaire ?» Et donc, il lui arrive des choses, elle dirige un peu la famille, et elle a donné son corps à la science. Et là, j'ai raconté une chose qui s'est tout à fait passée,
qui est vraie,
qui est tout à fait authentique dans Paris, qui est un trafic de cadavres qui a eu lieu il y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 ans dans Paris. On s'est rendu compte que à la fac de médecine de la rue des Saint-Pères,
en plein cœur de Paris,
en plein Paris, il y avait un trafic de cadavres. Il y a eu un trafic de cadavres et j'ai mis ma pauvre personnage là et on a trouvé parce que c'est-à-dire que des infirmiers et des gens de la et des médecins s'entendaient pour on vendait un œil, on vendait un rein, on découpait un doigt et jusqu'au jour où l'inspection, je ne sais quelle inspection est venue vérifier les salles, les fourmis couraient par terre, les cadavres étaient décomposés, enfin c'était vraiment vraiment affreux et comme tout ça, comme ça arrive parfois en France, ça a été étouffé parce qu'il y avait un président d'université, blablabla, oui. Personne n'a été inculpé, mais on a le sentiment, et Paris entre autres, d'être une civilisation, mais un de mes amis qui est Daniel Mendelsohn a publié un livre qu'il a intitulé « En attendant les barbares » d'après un vers de Constantin Cavafy. Mais « En attendant les barbares », c'est pas la peine, ils sont là. Et les barbares, ce qu'on ne sait jamais, c'est qu'on croit que les barbares sont à l'extérieur à cause de leur nom. Les barbares sont jamais à l'intérieur, ils sont à l'intérieur. Et les barbares, c'est nous. Une chose pareille qui se passe en plein Paris, du trafic de cadavres pour voler des yeux, vendre des bouts d'organes, c'est de la barbarie pure et simple. Mmh. Et donc, comme on a de vieilles habitudes, nous nous croyons civilisés, mais par certains côtés, nous sommes des brutes avec des ordinateurs.
Et d'ailleurs, il s'agissait de personnes qui avaient fait don de leur corps à la science, dont certaines étaient très connues en plus. Enfin,
c'était une très mauvaise histoire drôle quand j'étais petit de Thierry Luron qui disait « Alice Sapritch a donné son corps à la science, la science a refusé ».
C'est ça, voilà. Des définitions qui tombent également un peu comme du vielat. Hein. Qu'est-ce qu'un réactionnaire ? Quelqu'un qui prend ses colères pour des idées ? Pas étonnant que sa dernière maîtresse l'ait quitté il y a longtemps déjà. On est en train de faire la description d'un
personnage. Oui, mais je crois. Regardez tous les penseurs réactionnaires de maintenant. C'est des gens qui ont des ulcères et qui vous savez, les Grecs pensaient que le siège de l'âme était dans l'oreille et eux, le siège de leur âme est dans leur ulcère et donc ils pensent que leur ulcère est une pensée et donc comme ils ont mal à l'estomac, ils disent que la France est morte. Mais ça, c'est un truc assez fréquent quand on vieillit. Voilà. On dit que la France est morte, mais c'est soi qui va mourir et la France durera plus longtemps que Finkielkraut.
Des ulcères qui peuvent faire mourir, effectivement. Mais Paris, ville de plaisir, où les 3/4 des habitants meurent de chagrin.
Ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est une citation d'un merveilleux écrivain qui est Champfort. Champfort disait ça. C'est le seul moraliste qui n'ait pas été moraliste. Et si vous n'achetez pas mon livre, achetez en folio les Maximes de Champfort au Volcan, qui est un livre merveilleux. C'est le seul, vraiment le seul moraliste qui ne soit pas teigneux et méchant et qui ne cherche pas à se venger. C'est d'ailleurs une vie intéressante, Champfort, c'est que il était. Les écrivains, c'est sorti de l'esclavage assez tard. Champfort était au service d'une famille aristocratique. Je crois que c'était les Noailles, si je crois bien. Et il était. Il leur écrivait des choses, quoi. Et étant leur employé, il était pensionné par la famille. Il dînait à l'office avec les domestiques. Donc les écrivains sont devenus un peu indépendants assez tard et d'ailleurs Champfort est devenu révolutionnaire et la seule relation qu'on ait de la nuit du 4 août, de l'abolition des privilèges, chez Champfort, qui était avec Mirabeau et qui a relaté ça. Bref, les Maximes de Champfort, il y a des choses sur Paris qui sont très, très fortes. Il raconte dans une de ses Maximes qu'il s'arrête dans la rue à Paris pour regarder un chien qui ronge un os, pour enfin avoir un sentiment authentique devant lui.
Vous décrivez assez régulièrement aussi, parfois vous reprenez des listes ou des séries, ou parfois des graffitis ou des slogans. Paris est une ville où on manifeste, évidemment. Vous évoquez Nuit debout, rien que le terme est beau, dites-vous, comme une chanson de Dao. Voilà, Paris est une ville où, après les murs, on trouve de la poésie à travers tous ces slogans.
Ben Paris est une ville tellement littéraire que les gens font des graffitis où ils parlent. Et d'ailleurs, dans mon roman, il y a une scène ou un mur où les graffitis se décollent et se parlent les uns et les autres. Mais vraiment, mai 68, c'était ça. Mai 68, c'était des écrivains qui faisaient des phrases et qui écrivaient au mur. Je crois que c'est la seule révolution au monde, où, enfin, c'est le seul pays au monde où il y a tellement de... Et il y avait des choses assez marrantes, d'ailleurs, je crois que j'en cite une dans mon livre. C'était une chose qui faisait mourir de rire Clara Malraux, la veuve d'André Malraux. Enfin, ou la femme de Malraux, il n'était pas mort en 68. Elle avait croisé sur un mur de Paris, en mai 68, un graffiti qui disait « Plus jamais Claudel ». Donc 68 c'était ça, mais Nuit debout c'était pareil, moi j'y suis allé parce que ça m'amusait, moi j'aime bien les gamins qui font un peu la pétaudière, et donc je suis allé place de la République. Et alors la chose qui a changé, je fais dire à un de mes personnages, je lui fais dire parce que je pense que c'est pas tout à fait intelligent, mais il y a une chose qui a changé, c'est que les graffitis maintenant sont passés des murs aux trottoirs. Je ne sais pas si c'est comme ça à Clermont-Ferrand, mais à Paris, il n'y a plus de graffiti sur les murs et les gens inscrivent leur graffiti sur les trottoirs. Et je fais dire à un de mes personnages, c'est que l'humanité, depuis une dizaine d'années, baisse tellement la tête à cause des téléphones portables qu'on ne peut attirer leur attention que sur le sol. Et toujours est-il que maintenant, les slogans sont par terre, et Nuit debout, il y avait d'assez beaux slogans, mais moi je pense que je fais dire à celui de mes personnages qui va voir Nuit debout, place de la République, que Nuit debout était un mouvement romantique parce que les slogans étaient plus lyrico-romantiques, alors que 68 était plus voltairien, plus sarcastique et plus rieur. C'est peut-être caractéristique de maintenant, le moment est peut-être plus mélancolique.
Et pour voir Paris, il y a quand même une partie de la ville qui toise un petit peu la capitale, c'est Montmartre. Vous avez quelques phrases sur Montmartre, mais vous avez un petit peu la dent dure quand même, et c'est vrai, Montmartre est le seul quartier de Paris où il soit impossible de bien manger.
Ah oui, ça je le sais parce que j'y ai vécu. C'est épouvantable, Montmartre. Bon, il n'y a rien, tout est mauvais. Tout est mauvais. Il y avait un traiteur que j'aimais beaucoup, puisque j'aime beaucoup les traiteurs, qui a disparu pour être remplacé par un théâtre assez moche, et qui s'appelait Au Cochon Rose, et qui avait une énorme tête de cochon en laiton peint en rose au-dessus de la vitrine. Et quand ils ont fermé le truc, j'ai essayé d'acheter la tête de cochon pour l'avoir chez moi, j'ai pas pu l'avoir. Bref, et c'était pas bon, la baguette de pain est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, si c'est... Il y a encore une singularité dans Montmartre. Moi, c'était il y a assez longtemps, mais quand je me suis établi à Montmartre, j'avais pris un appartement à Montmartre, et tout en haut, derrière la place du Tertre, qui m'a fait comprendre d'ailleurs que les touristes sont exactement comme des troupeaux de salaires, c'est-à-dire ils vont à l'endroit où on leur dit d'aller, ils vont pas ailleurs parce qu'ils ont peur. Moi j'habitais à 10 mètres de la place du Tertre, pendant des années j'ai jamais vu un touriste, ils n'y vont pas. Au fond ils sont assez inoffensifs, ils broutent à la place du Tertre, des tableaux moches et puis ils repartent. Et donc en tout cas, quand je me suis installé à Montmartre, le premier jour je descends mettre mon nom dans la boîte à lettres, et là je vois une vieille dame un peu à l'ancienne, un peu pas chic-chic, mais très sympathique, un peu grasse, bien poudrée, avec des cheveux blonds, frisés, et qui parlait avec un accent parisien comme ça. Alors, monsieur, vous êtes le nouveau et tout. Enfin, très bien, on parle un peu, très marrant, très sympathique. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, bon, bah, je vous laisse parce que je dois aller à Paris.
Parce que la suite, effectivement, c'est ça, Montmartre est le seul quartier de Paris où il soit impossible de bien manger. Réponse du professeur de droit, c'est que Montmartre n'est pas Paris.
Non, pas tout à fait. Mais enfin, il dit ça, mais on peut dire que Belleville n'est pas tout à fait Paris, que les Champs-Élysées sont pas tout à fait Paris, que chaque bout de Paris n'est pas exactement Paris. C'est une ville, au fond, à la fois très élégante et disparate. On parlait tout à l'heure des souffrances de Paris. Moi, je pense que un des drames de Paris et de la France, c'est que Paris n'ait pas été bombardé en 40. Paris déclarait ville ouverte, les Allemands sont entrés là, les Parisiens et les Français n'ont pu faire que ce qu'ils ont pu faire, alors que je me dis que si quelques bombes étaient arrivées, avaient éventré le Louvre et fait tomber l'Arc de Triomphe, il y aurait eu un sentiment de résistance beaucoup plus fort, exactement ce qui s'est passé à Londres. Et je pense que la beauté de Paris l'a tué, parce qu'on a voulu préserver cette élégance, cette beauté, tout ça. Ça paraissait inconcevable de laisser détruire ça, ce qui peut se concevoir. Et d'ailleurs, je ne juge pas, on a fait ce qu'on a pu faire, mais Londres bombardé, les Anglais ont été beaucoup plus... Enfin bon.
L'un des protagonistes, Victor, qui est cet écrivain qui est en souffrance extrême, échange avec Gabriel, et il parle de littérature, il parle du métier d'écrivain, de l'acte de l'écrivain. Tu aurais dû être écrivain, lui dit-il. Tu aurais dû être écrivain, tu adores former des phrases, tu les noues en parlant, tu les perfectionnes. Non, tu les déplies. Tu as pensé avant de parler. Tu es un écrivain qui n'écrit pas. Pas un mot de plus, Gabriel n'écrivant pas.
Oui, oui, c'est, il y a des, moi j'ai connu une femme comme ça. En réalité, je pensais à quelqu'un en écrivant cette phrase, qui était une femme très, très spirituelle, qui était la sœur de Juliette Gréco, qui était Charlotte Ayot, et que j'ai bien connue, et qui était exactement ça, qui était une femme qui adorait faire des phrases. Parce qu'un écrivain, ça ne s'occupe pas de mots. Les mots, ça a été inventé pour mentir, et un écrivain est là pour tendre le cou aux mots avec des phrases. Et, à mon avis, en tout cas. Et donc, cette femme, cette Charlotte, et j'ai fait Gabriel comme ça, était une femme qui adorait parler, qui adorait faire des phrases, et on sentait bien qu'elle pensait avant d'avoir parlé, comme elle pensait très vite, elle formait des phrases admirables, et c'était exactement ça, un écrivain qui n'écrivait pas. Mais les gens qui parlent trop n'écrivent pas. Enfin, à part moi.
Bien. Merci infiniment, Charles Danzig. On est allé assez loin, effectivement, sur ce livre, sur ce roman qui croise effectivement tous ces destins. On a même parlé effectivement de ces animaux. On
aurait ça pu... donne pas une impression sinistre tout ce que j'ai raconté.
Ah non, c'est...
Ah un peu quand même.
Non, en plus, c'est un vrai livre du gai savoir. C'est-à-dire que on apprend plein de choses en plus, voilà, de manière très amusante. Et puis, c'est tellement méchant, souvent. C'est tellement rigolo.
Ah, méchant. C'est un truc. On dit que les gens sont méchants quand ils dévoilent les méchants.
Voilà.
Ça arrivait à Voltaire tout le temps. Je fais une comparaison très modeste. Mais. C'est fabuleux quand on relève ça, quand on relève les méchancetés des autres, on passe pour méchant. Mais c'est parce que. La France est un pays d'hypocrites.
C'est ça.
Non ? Oui.
Voilà. Mais justement, voilà, l'auditoire prend la parole et justement, on veut remercier pour cette première partie du propos. Éventuellement, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, maintenant.
Dans ce que je dis ?
Ah non, je c'est peut-être pour faire le malin quand je parle comme ça, mais j'ai horreur du cynisme et pas du tout. Alors si je donne cette impression-là, peut-être, mais non, je crois pas. Voilà, je suis méchant. Mais il faut pas le dire, mais je suis un vieil idéaliste. Non, mais ça, vous avez raison. Enfin, d'ailleurs, j'ai employé le mot beauté pour aller plus vite. Je pensais qu'on voulait, enfin, les gouvernants voulaient préserver, mettons, la beauté de Paris. Mais j'ai horreur de l'idée de beauté qui est une idée fasciste. Donc, la beauté, je sais pas ce que c'est. La beauté est fluctuante. Enfin, la beauté des Allemands, c'était Arno Breker et la ville de Germania. Et c'était, et on voit bien que la, et d'ailleurs, il y a une chose très frappante, c'est que j'ai écrit dans un de mes livres « Le beau d'hier fait rire ». Le beau d'hier fait rire. C'est-à-dire les choses qui étaient belles hier nous font rire. Regardez, il n'y a pas très longtemps, je voyais un film hollywoodien des années 40 avec Claudette Colbert qui était considérée comme très belle. Elle paraît maintenant ridicule avec ses bouches en cerise, etc. Donc le beau, vous savez, c'est très fluctuant. Évidemment, on a été très... Ce qui nous a tués, c'est le génie des Grecs. C'est-à-dire que quand les premières sculptures grecques, Phidias, etc., ont fait des hommes debout avec une forme de perfection et qui était tout à fait nouvelle dans la façon de représenter, parce qu'il y avait un pas en avant et ça voulait dire que l'homme était en marche, c'était une idée humaniste en réalité. Et on a transformé cette idée humaniste de l'art et de la sculpture en beauté parfaite et un canon de la beauté qui est... Non, l'idée... Enfin, d'ailleurs, quand je dis Paris n'est pas une belle ville, ça ne veut rien dire en réalité. Qu'est-ce que c'est que la beauté, moi, par exemple. Enfin, par exemple, moi, je trouve le centre Pompidou très bien et la moitié des Parisiens trouvent ça affreux. Donc, c'est le mouvement des choses qui compte, sinon c'est...
D'ailleurs, vous décrivez une femme, son portrait, c'est un plat grec, d'ailleurs. C'était, il me semble bien, donc, quelque part.
Ah oui, mais là, vous allez donner raison, monsieur. C'est que, voilà. Non, c'est pas moi qui parle, c'est un de mes personnages qui parle d'une femme qui est très refaite et qui dit qu'elle ressemble à un plat mycénien.
Oui, c'est ça, elle ressemble à un plat mycénien.
Vous savez, c'est plat, très plat, avec un nez qui dépasse, un peu bosselé, comme ça, et luisant, comme après une séance de botox.
Ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire parler effectivement tout à l'heure de la...
Botox était un sculpteur mycénien très connu, Artemisius Botox, qui est né en moins 800 et qui est conservé au musée de Delphes. Il y a des œuvres merveilleuses. Il y a Catherine Deneuve.
Et en fait, c'est parce
que je suis espiègle que je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises.
Oui, et c'est pour ça que je voulais vous faire parler justement de Notre-Dame tout à l'heure, pour montrer à quel point a été vain, et vous avez vu, ça a dû beaucoup vous amuser, tous ces débats de savoir si on refait la flèche de Viollet-le-Duc ou pas. Enfin, c'est une complètement vide de sens.
Oui, c'est vide de sens. Et enfin, tout ça, c'est pour donner des avis à mon écrivain qui va à la radio, à RMC ou à machin ou à CNews pour dire ouais, on doit faire ci, on doit faire ça, la flèche, Viollet-le-Duc avait dit, enfin, tout ça. Enfin, ça montre aussi l'état de réaction du pays, même que de voir ces histoires sur les vitraux. Il ne faut pas faire des vitraux modernes. Enfin, pourquoi il ne faudrait pas faire des vitraux modernes? Parce que quand Notre-Dame a été construite, ce n'était pas moderne par hasard? Ce n'était pas des gens contemporains? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est. On périt de patrimoine. On périt de patrimoine.
Une autre question? Oui? Allez.
Je fais semblant de le croire. Je fais semblant de le croire depuis toujours, mais je crois que je suis assez moi pour la politique de l'autruche. Je suis assez pour faire semblant en me disant par superstition que à force de faire semblant, peut-être que les gens se conformeront à se faire semblant. Mais il est certain que, enfin, moi, il y a une phrase de Jules Renard qui m'a toujours enchanté dans son journal. Il dit « J'ai été élevé par une bibliothèque ». Moi, c'était ça, j'étais élevé par une bibliothèque, j'étais tout seul, je lisais des livres, etc. Et donc, j'ai été constitué par la littérature comme d'autres le sont par autre chose. Et donc, toute ma vie était destinée, pour moi, à devenir un livre et à être assis au banquet des écrivains, où c'était comme, quand au bistrot, il y avait à la fois Mallarmé qui serrait la main de Verlaine et qui machin et tout ça. Ça existe un peu moins. Ça existe un peu moins, mais je crois qu'il faut faire semblant, parce que si on lâche ça... je suis remplacé par une boutique Prada. Donc, non, c'est moins... Mais en même temps, j'aime pas non plus le discours. Ça avance, c'était plus vivace, etc. Maintenant, c'est un peu une période un peu de baso, et ça sera mieux après. Enfin, vous savez, la littérature française des années 30, c'était pas formidable, et c'était mieux après. Je sais pas quoi... Enfin, voilà, je fais un peu semblant, mais... Mais comme je suis grand et un peu grande gueule, comme ça, les gens n'osent pas me contredire. Donc, mais effectivement, j'ai vu disparaître beaucoup de choses. J'ai vu disparaître dans mon quartier depuis que j'habite. J'ai vu disparaître en l'espace de 20 ans 12 librairies. J'ai vu disparaître la presse littéraire. J'ai vu disparaître la presse dramatique. J'ai vu disparaître presque la presse de cinéma. J'ai vu... Voilà. Bon, et ça sera peut-être remplacé par autre chose. Il ne faut pas... Les choses disparaissent et c'est aussi la vie qu'elles disparaissent. Mais c'est mieux quand c'est remplacé par quelque chose de... qu'on aime bien. Votez pour moi, tout ira bien.
Oui.
Personne n'a jamais dit votez pour moi, tout ira mal.
Non, mais il faudrait peut-être tester ensuite. Peut-être. Oui.
Oui.
On parle de la même chose, quoi.
Exactement. 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 Et tout ça, se croyant extrêmement raffiné et civilisé parce qu'on sanglote sur Notre-Dame et ah, là, on va donner l'argent à Notre-Dame, machin et tout ça. Et c'était vous, vous avez tout à fait raison, je peux souscrire qu'à ça. Mais vous savez, cet art gothique qu'on appelle à tort gothique, moi qui suis né dans le Midi, la première fois que je suis allé dans le Nord à Paris pour voir ma famille, et la première fois j'étais enfant que j'ai vu une cathédrale dite gothique et qu'on devrait appeler française parce que c'est de l'art français, bref, j'étais indigné. Je trouvais ça hideux parce que moi je venais du Midi où c'était de l'art roman pur, simple, sans chichi, sans des ornementations pour faire peur aux gens, sans d'un mauvais. Et je vous assure, j'avais 7 ans, personne ne m'avait rien appris. J'étais indigné de voir ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est laid? Et je passe devant Notre-Dame. Enfin, j'ai passé l'âge de me dire qu'est-ce que c'est laid, mais ça me déplaît. Pardon.
Non, mais.
Et puis d'ailleurs, ils sont habillés comme Notre-Dame. Regardez un évêque, ça porte comme ça en pointe. Enfin,
ça n'a pas beaucoup changé.
On a
la physionomie est comparable.
L'habillement est une architecture. Hein. L'habillement est une architecture. Remarquez que nous habillons comme les puissances sont. Les bourgeois du 19e siècle étaient habillés comme des usines.
Avec un chapeau de forme, des pantalons noirs,
et c'était des cheminées d'usine. Et les premiers empereurs romains qui se sont convertis au catholicisme ont porté pour la première fois, à la grande stupéfaction des Romains, des robes longues. Pourquoi ? Parce que leurs robes longues et leurs bras écartés ressemblaient à des croix.
Oui, et puis ensuite...
Non.
On passera. Oui, on passera.
Mec, voilà.
Quand même, c'est une énorme
masse. Oui, c'est
et
une
puis
masse.
Bien en hauteur.
C'est là pour faire peur. C'est là pour dire la domination, c'est là pour dire la puissance, murer la
créativité. Et il y a bien pire que Notre-Dame de Paris à Paris. Il y a le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est le bâtiment le plus scandaleux de Paris, qui a quand même été créé, demandé par l'Église sur la butte Montmartre qu'on a arasé pour expier les péchés de la France.
C'est ça.
Expier les péchés de la France pour nous faire cette espèce d'église affreuse, hideuse, blanche qu'on voit de partout, qui s'impose elle aussi. Là, après, moi, je ne comprends pas la politique. C'est un truc sur lequel la gauche tenait toujours. Il était hors de question que le Sacré-Cœur soit un monument historique. Eh bien, Hidalgo, qui a parfois tort, sa municipalité, qui est quand même supposée une municipalité de gauche, a demandé l'inscription aux monuments historiques de ce bâtiment scandaleux pour la souffrance des Parisiens. Voilà. Oui. Là, on est dans autre chose, mais en plus, la religion majoritaire des Français, qu'est-ce que c'est ? Enfin, et de l'Europe, sinon des croix, c'est-à-dire des symboles de mort plantés dans toute l'Europe, et avec un symbole d'un homme mort et cadavérique qui est supposé être adoré. Enfin.
Voilà, la transition est un peu complexe, voilà. Mais le livre est beaucoup plus réjouissant. même si la fin n'est pas forcément. On va pas la donner.
Donc c'est si vendu comme Pif Gadget avec une pastille antidépresseur.
Il y a un petit crucifix avec. Bien, merci infiniment Charles Danzig pour ce moment. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Et ce message d'amour pour Paris aussi dans tous ces siècles. Donc je vous livre à votre public pour des dédicaces éventuellement ou aller plus loin dans des conversations.
Merci.